Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Bonjour, merci à vous d'être présent pour parler d'un sujet qui, au vu de l'actualité, peut paraître un petit peu accessoire. On aurait pu imaginer intituler la table ronde peut-être « Le droit à la retraite numérique » pour coller un petit peu plus à l'actualité. Vous savez, non pas se retirer de la vie professionnelle, mais se retirer du monde virtuel. Pour mobiliser du monde, mais bon, manifestement, il y a quand même du monde, donc c'est plutôt rassurant. D'autant que ce sujet, la vie privée, l'ère du numérique, est véritablement une grille d'analyse sur le monde qui nous entoure, qui est extrêmement éclairante. Alors, Elisabeth Quillâtre et moi-même sommes donc co-responsables du cours de droit comparé dans le master droit du numérique, et je travaille dans un laboratoire qui considère que être juriste, c'est être capable de sens critique envers le droit positif. Et pour critiquer, évaluer et faire évoluer le droit positif, il faut être capable de sortir de la matrice et d'aller chercher de l'oxygène ailleurs. Ailleurs dans le temps, ailleurs dans l'espace et ailleurs même peut-être dans d'autres disciplines. Donc le temps et l'espace, on vient de... Elisabeth Quillâtre l'a fait brillamment à l'instant. Et ce que je voudrais vous proposer, donc, c'est du droit comparé un peu différent et une comparaison entre le droit du numérique classique, le sujet de ce master, c'est-à-dire... le droit à l'épreuve du numérique, et un concept que j'appelle, qui est un petit peu différent, qui s'appelle le droit technologique, et qui est un concept qui dérive d'une mouvance issue des États-Unis sous l'égide de Lawrence Lessig, un éminent constitutionnaliste américain très au fait de ces sujets nouveaux, et notamment de la nouvelle école de Chicago. En effet, aux États-Unis, s'il n'y a pas véritablement de loi sur la vie privée, en tout cas sur les données à caractère personnel, il y a une doctrine extrêmement foisonnante et très en avance sur tous ces sujets, et c'est finalement la substance la plus intéressante à retirer pour notre analyse en Europe et en France. Donc la grande question que je vais poser, et qui va peut-être servir un petit peu de conclusion à cette table ronde, c'est: est-ce qu'on peut avoir un droit à l'oubli numérique? Pourquoi et comment? Alors, il y a un problème avec le droit à l'oubli numérique. Le président de la CNIL, Alex Turc, il y a deux semaines, je crois, en commission parlementaire, a résumé le droit de la protection des données à travers trois principes dans le temps. Le droit à la protection des données, c'est le droit au consentement avant, c'est le droit à la transparence pendant, et c'est le droit à l'oubli après. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que le droit à l'oubli, on ne parle pas de droit à l'oubli même numérique, que ce soit en droit français ou dans les autres juridictions. On ne parle pas de droit à l'oubli. Et en fait, déjà, on peut se poser la question, pourquoi ? Mais en fait, c'est assez simple. Si on raisonne un peu en termes contractuels et synalagmatiques, reconnaître un droit à l'oubli pour l'un, c'est en fait imposer à l'autre un devoir d'oublier. Maintenant, si je vous dis mon prénom, je m'appelle Jean-Baptiste. Si je vous dis que vous avez une obligation légale d'oublier, essayez là maintenant d'oublier mon nom. Impossible. C'est impossible. Peut-être spontanément, naturellement, dans quelques minutes, dans une heure, dans quelques jours, vous aurez oublié mon nom. Mais ce n'est pas sous l'effet de la contrainte, qu'elle soit légale ou contractuelle, que vous allez oublier. C'est un processus naturel de sélection de l'information utile. Consacrer un droit à l'oubli... Oui, mais vous voyez qu'il y a déjà une contradiction dans le concept. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a tourné un petit peu autour du pot, mais la réalité du droit positif, c'est une obligation à la charge des responsables de traitement d'effacer les données au bout d'un certain temps. Et c'est un certain temps, ce certain temps, c'est en fait la durée de la finalité du traitement. Alors, il y a un problème relatif à cette obligation. Lorsque vous achetez quelque chose, il y a un contrat de vente. Vous pouvez contrôler l'exécution de l'obligation de livrer la chose. Mais lorsqu'il s'agit d'une obligation d'effacer les données, lorsque Google s'engage contractuellement à effacer les données au bout de 12 mois, au bout de 18 mois, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'exécution de cette obligation? Vous allez vous déplacer sur les serveurs, vérifier sur les ordinateurs sur les serveurs de Google si vos données ont bien été effacées? Évidemment non. Le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier les manquements en matière de droit à l'oubli ou d'obligation d'effacer les données. On se rapproche quasiment de l'engagement unilatéral dont le respect est discrétionnaire. Et finalement, tout ça repose sur des promesses de la part des opérateurs et puis la confiance qu'on accorde à tort ou à raison à Google, à Facebook, etc. etc. Et le pire, c'est que dans les politiques de vie privée de ces opérateurs, il y a peut-être des ambiguïtés sur la communication de ces données. Que Google transfère ses données à ses sous-traitants, à ses filiales, c'est tout à fait légitime, c'est peut-être nécessaire à la finalité du traitement à laquelle vous avez consenti. Mais la question, c'est, à partir du moment où Google ou Facebook va transférer ses données à des partenaires commerciaux non identifiés et même non identifiables, il y a une dissémination incontrôlée des données à caractère personnel que vous communiquez, qui fait que non seulement vous ne pouvez pas contrôler l'exécution d'obligations contractuelles de la part de Google, mais en plus vous ne pouvez pas contrôler le respect de ces obligations, si tant est qu'elles existent, sur les partenaires de Google, et puis sur les partenaires des partenaires, des partenaires, des partenaires, des partenaires. Vous savez, c'est le cloud computing, vous avez peut-être entendu parler, on vit dans une fourmilière informationnelle, en réalité les données personnelles circulent sans qu'on puisse contrôler qui fait quoi avec. C'est ça la réalité de l'Internet. Donc reconnaître une obligation d'effacer les données, pourquoi ? D'accord ? Reconnaître, aller plus loin et reconnaître un droit à l'oubli, pourquoi pas ? Mais concrètement, et ça a été déjà dit, quel intérêt si en fait on ne peut pas contrôler l'exécution, on ne peut pas identifier les manquements et on ne peut pas sanctionner les personnes en question. Vous savez, c'est le droit à l'oubli numérique, moi ça me fait penser un peu aussi au droit au logement. Et même récemment, je voyais dans le métro une publicité pour une société qui propose des voyages et qui consacrait le droit au soleil. Moi j'ai trouvé ça super comme concept, le droit au soleil. Oui, mais c'est bien de le reconnaître en théorie, mais comment est-ce qu'on fait pour lui donner une application concrète ? Qui est-ce qu'on poursuit ? Qui est-ce qu'on sanctionne ? Voilà, reconnaître des droits, c'est aussi trouver des moyens de les mettre en pratique. Donc voilà, on est face à un problème, reconnaître un droit à l'oubli numérique, pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on le met en œuvre en pratique ? Alors, en fait, il y a une piste qu'il faudrait creuser, parce que cette formule du droit à l'oubli numérique, elle est très intéressante, parce qu'elle comporte une notion qui finalement révèle des hypothèses pleines d'enseignements. Et en fait, il faut prendre le droit à l'oubli numérique un peu au pied de la lettre. Si on considère que les informations sont stockées sur des mémoires d'ordinateur et non pas dans des cerveaux humains, est-ce qu'on peut faire un petit peu d'anthropomorphisme et demander non pas aux responsables de traitement d'effacer les données, mais peut-être imaginer des machines capables, un petit peu comme le cerveau humain, d'oublier. Est-ce qu'on peut imaginer que les mémoires numériques peuvent oublier de manière automatique, c'est-à-dire à travers la technique elle-même ? Alors, il y a une fausse piste, et puis il y a quand même une hypothèse intéressante qu'on va voir. La fausse piste, ce serait imaginer implémenter dans les machines un bug informatique, exactement comme sur le modèle du fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, on voit déjà une nouvelle génération de mémoire flash qui oublie, c'est-à-dire que la corrosion a un effet sur la puce qui entraîne une corruption progressive des données avec le temps. Et là, c'est un oubli évidemment totalement aléatoire. Mais la réalité, et là je vais généraliser un petit peu, c'est qu'on ne veut pas que les machines oublient. Je vais même aller plus loin, c'est contre nature. Je pense ne pas être le seul à noter des listes de courses, à noter dans mon agenda des rendez-vous, à stocker des photos de vacances sur mon ordinateur, à enregistrer mes idées sur un dictaphone. Pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais en réalité, depuis la nuit des temps, l'homme a recours à des artefacts, l'écriture, le papier, les tablettes de cire, puis l'imprimerie et récemment les technologies de l'information. Pourquoi ? Eh bien, pour conserver une trace de son savoir. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, certaines sociétés primitives ont des difficultés à évoluer justement parce qu'il n'y a pas de transmission par écrit du savoir ancestral. Et dès que, justement, le sachant meurt, avec lui s'évanouit toute une série de connaissances parce qu'elles n'ont pas pu être transmises oralement et encore moins par écrit. Donc, vous voyez qu'on ne réalise pas toujours à quel point la possibilité de stocker de l'information et de la transmettre aux générations futures est un facteur de progrès. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'imprimerie et la Renaissance sont quasiment contemporains. Par ailleurs, la mémoire est un enjeu de politique publique, ça aussi, il faut le dire. On lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est même une angoisse d'oublier. On consacre dans les lois un devoir de mémoire, des lois mémorielles. Sur le site de l'INA, qui était une institution publique, vous avez la mémoire de l'audiovisuel français archivé. Et puis sur le site du master, vous avez les mémoires des étudiants, accessibles en ligne. Pas tous, ceux qui... et puis évidemment, l'intelligence en matière de renseignement est un enjeu de stratégie politique et géopolitique majeure. Donc la réalité, c'est que l'informatique, c'est le point culminant de cette lutte de l'homme contre l'oubli et en faveur de la matérialisation du savoir. C'est l'artefact de notre mémoire défaillante. Donc vous voyez que l'idée de l'oubli numérique, c'est-à-dire une sélection automatique, aléatoire et spontanée des machines sur l'information, c'est déjà une aberration en soi. Il y a une espèce d'antagonisme fondamental entre les techniques, ce qu'on pourrait appeler les techniques mémorielles, que sont les techniques de l'information et de la communication, et la notion d'oubli. Alors une fausse piste, peut-être pas. Est-ce qu'il y a forcément incompatibilité? Et c'est là où j'en viens à la nouvelle école de Chicago et ce que j'appelais le droit technologique, et qui est à mon avis véritablement une piste à creuser. Voilà le postulat de la nouvelle école de Chicago. Les techniques ne sont pas neutres. En fait, elles reflètent intrinsèquement, dans leur essence, dans leur architecture, dans leur constitution, la politique et les principes de leurs concepteurs. En d'autres termes, il existe des techniques intrinsèquement invasives pour la vie privée et d'autres qui le sont moins. Je pourrais vous parler par exemple de la biométrie. Il y a une biométrie par empreinte digitale qui pose beaucoup de problèmes, et puis il y a une biométrie par empreinte veineuse qui, elle, pose beaucoup moins de problèmes. Donc il faut faire des distinctions. Et le postulat, c'est que il est possible d'inciter, de négocier avec les industriels, avec les partenaires privés, des programmes d'informatique, des architectures, des applications qui intègrent des éléments légaux. C'est par exemple ce qu'on a fait avec les fameux DRM. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. En matière de propriété intellectuelle, on fait de la prévention technologique pour faire respecter le droit d'auteur. Donc en matière de droit de l'oubli numérique, comment ça peut se traduire? Eh bien, on est en train de réfléchir à un système de métadonnées à caractère personnel. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, les métadonnées à caractère personnel, c'est l'information sur l'information. L'idée, c'est d'associer aux données personnelles des informations d'exploitation et puis des droits automatiques qui sont associés. Par exemple, mon prénom est une donnée personnelle. L'idée, c'est de mettre cette donnée personnelle dans une enveloppe qui contiendra des droits qui seront mis en œuvre techniquement. Et par exemple, en matière d'oubli numérique, on pourrait imaginer que cette donnée personnelle est une date d'expiration automatique, comme une date de péremption. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le produit devient périmé. Il se détruit automatiquement. Vous savez, c'est dans quelques instants, ce message se détruira automatiquement. C'est exactement ça. Je ne peux pas le développer, mais je le développerai certainement dans mon rapport, mais c'est pour vous donner, pour vous sensibiliser à l'idée que le droit se technicise, et en fait, le droit des sciences et techniques, progressivement, devient un droit technologique, c'est-à-dire animé d'une logique, animé d'une logique technique. Alors pour que cela fonctionne, évidemment, il faudrait une standardisation internationale. Alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner par exemple sur l'architecture du P3P, qui s'inscrit dans cette évolution et qui donne une marge de contrôle très conséquente aux utilisateurs afin de contrôler davantage les données qu'ils peuvent partager sur Internet. Mais quand on parle de standardisation, on imagine souvent, vous savez, une série d'experts qui se retrouvent en comité et qui décident de manière relativement peu démocratique des évolutions à donner aux technologies. Et en réalité, la standardisation passe par des voies détournées aujourd'hui. Et c'est assez intéressant, on a beaucoup parlé de Google et Facebook. Mais on s'aperçoit que sous l'effet de la pression citoyenne et notamment associative, de plus en plus informée sur le sujet, et également du fait de négociations assez tendues avec les autorités de protection des données, et bien des opérateurs comme Google et comme Facebook, de manière de plus en plus spontanée, incorporent dans leur logiciel des éléments de respect de la vie privée. On pourrait parler très récemment de Google qui a sorti une version cryptée en HTTPS de son moteur de recherche, qui est une véritable avancée, qui permet de crypter les mots-clés que vous pouvez utiliser dans le moteur de recherche. De la même manière, on parlait, Monsieur Georges Chatillon parlait tout à l'heure de Facebook qui avait déclaré que qui avait annoncé la fin de la vie privée. Il y a eu un tel tollé après cette déclaration, notamment de la part des citoyens, que finalement Facebook a changé son fusil d'épaule et quelques semaines, quelques mois après, toute l'architecture de protection de la vie privée sur Facebook a été revue. Et aujourd'hui, très sincèrement, même si c'est loin d'être parfait et ici il y a des problèmes de dissémination, la réalité c'est que l'architecture technique de la politique de confidentialité de Facebook n'a pas de précédent et n'a pas d'équivalent en termes de contrôle des utilisateurs. Vous pouvez vraiment définir quel type de données est accessible à qui, et sincèrement, il n'y a pas d'équivalent. Loin de moi l'idée de dire que c'est parfait et que c'est la panacée. C'est juste un témoin de l'évolution qui se dessine en matière de technicisation du droit. C'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, comme l'a rappelé Maître Bensoussan Brûlé, les sociétés comme Google ou Facebook ne sont a priori pas concernées par la directive 95-46 ou par les lois de transposition nationale, puisque ce sont des sociétés qui sont établies à l'étranger. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, si les lois dont nous parlons, notamment la loi informatique et liberté, n'est pas applicable, on s'aperçoit que par des voies détournées, les opérateurs, de plus en plus spontanément, commencent à s'intéresser au sujet du respect de la vie privée. Et, c'est là-dessus que je vais conclure, c'est que finalement, pour mener ce dialogue, on parlait tout à l'heure de droit mou et de droit dur, mais pour mener ce dialogue avec les opérateurs, il est très utile d'avoir des concepts qui permettent justement de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'avoir des concepts évocateurs, relativement simples à retenir, presque des slogans. Et finalement, le droit au respect de la vie privée devient trop abstrait dans une société qui accorde une place aussi importante à l'information. Et en plus, la notion de vie privée est assez relativisée de la part de la jeune génération. Donc pour donner un élan nouveau, une substance nouvelle au droit au respect de la vie privée, je pense qu'il est très utile que d'autres notions apparaissent et viennent lui donner corps. Un peu comme le droit d'auteur qui est démembré en plusieurs droits, on pourrait imaginer des principes un peu nouveaux. Alain Bensoussan pourrait vous parler, par exemple, de l'inviolabilité du domicile virtuel. Cet après-midi, Bernard Benabou pourra vous parler peut-être du droit au silence des puces. Elisabeth Kiad pourrait vous parler du droit au masquage des données médicales. On pourrait parler du droit à l'anonymat ou au pseudonymat. Eh bien, le droit à l'oubli, ça rappelle des éléments aussi qui sont intéressants. On a parlé de la prescription, de la notion de pardon, le droit à une seconde chance. Moi, je trouve que ça fait écho aussi à la fraternité. Donc des principes qui ont une vocation universelle et qui permettent de donner corps au droit au respect de la vie privée. Et vous voyez que si d'un côté on se dirige de plus en plus vers un droit technologique, très technique, la preuve la plus récente, si vous vous intéressez au sujet, allez voir l'extraordinaire profusion technologique de la récente loi et des décrets d'application sur les jeux en ligne. Il n'y a pas de précédent, c'est absolument c'est incroyable. Ce sont des décrets de plusieurs pages, sans compter des arrêtés, de la documentation technique. Pour assimiler la législation sur les jeux d'argent en ligne, c'est une documentation épaisse comme ça, et c'est que du droit technologique. C'est vraiment assez incroyable. Eh bien, pour compenser cette technicisation du droit, je pense avoir besoin de principes directeurs relativement simples et évocateurs à la résonance constitutionnelle. Alors peut-être sans doute pas incorporés dans la Constitution, mais en tout cas qui ont une résonance constitutionnelle. Il va s'agir un peu d'un joker ou même d'un carton rouge que l'on brandit, qui nous rappelle à l'ordre, un peu comme une épée de Damoclès, et qui symbolise en fait les valeurs que nous considérons importantes dans une société démocratique. Donc voilà, peut-être que ce terme de droit à l'oubli numérique a des défauts, il est sur le plan juridique et même contractuel, il n'est pas forcément très rigoureux. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans la loi et qu'on parle d'obligation de conservation des données. Mais il a un intérêt qui, à mon avis, est fondamental, c'est qu'il a une valeur symbolique. Il évoque un certain nombre de choses. Et je pense que c'est le corollaire indispensable à cette complexification progressive du droit. Donc l'incorporation du droit à l'oubli numérique dans la Constitution, sans doute pas, mais pourquoi pas, dans quelques années, une charte constitutionnelle du cyberespace. Ça a été l'initiative du gouvernement. Il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce domaine-là. Mais en tout cas, donner de la substance aux droits des citoyens à l'ère du numérique, ça passe certainement par la reconnaissance de nouveaux étendards qui nous permettent de communiquer avec les citoyens, avec les institutions, avec les juristes, les techniciens, les industriels, les associations, d'où l'intérêt de ce terme au final. Je vous remercie.